Bonjour, merci de participer à ce cours. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer la discussion de l'amplification limitée quantiquement, mais cette fois-ci, nous allons discuter le lien entre amplification et mesure. Ce lien paraît pratiquement évident. Pour mesurer, il faut amplifier. Mais dans la mesure en mécanique quantique, il y a un aspect qui n'est pas rencontré communément dans ce qu'on appelle l'amplification, qui est la modification du système, l'action en retour de l'instrument de mesure sur le système. Et nous allons pouvoir, dans cette leçon, expliciter cette action en retour quantique, le fait que mesurer un système quantiquement, c'est le modifier en général. Et nous allons voir que ce bruit infligé sur le système par l'amplificateur peut être en fait vu comme la contrepartie des processus dissipatifs à l'intérieur de l'amplificateur. Donc nous avons vu que l'amplificateur est un système hors équilibre dissipatif, il doit nécessairement inclure de la dissipation, et finalement on peut voir l'action en retour de l'instrument de mesure sur le système comme résultant de ces processus dissipatifs à l'intérieur de l'amplificateur. Donc en fait, la question que je cherche à aborder dans cette leçon, c'est finalement, est-ce qu'on peut voir la mesure en mécanique quantique comme une espèce de mouvement brownien? Et nous allons voir en particulier que les deux pièces maîtresses de la mécanique quantique, qui sont l'équation de Schrödinger et le postulat de la mesure, peuvent être assemblées dans une seule équation, une équation finalement une espèce d'équation de Langevin. À la différence de l'équation de Langevin ordinaire, c'est une équation non linéaire, mais finalement c'est une modification assez minime apportée à un formalisme somme toute classique pour décrire complètement la mesure quantique. Après cette leçon, nous avons le plaisir de recevoir Andrew Cleland de l'Université de Santa Barbara qui va nous parler de ces mesures extrêmement élégantes de l'état d'un résonateur. Donc, on peut dire que ces mesures sont des expériences qui placent la physique des circuits quantiques au même niveau, ou peut-être certains diront même au-delà de ce qui se fait en physique atomique. Et donc, Andrew est un professeur invité du Collège de France pour deux semaines. Donc, aujourd'hui, il va nous parler des résonateurs supraconducteurs électriques, mais il fait aussi un exposé la semaine prochaine à 3 heures où il nous parlera de ses travaux sur les résonateurs nanomécaniques. Résonateurs nanomécaniques feront d'ailleurs l'objet du cours de l'an prochain. Voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord introduire la notion de mesure continue effectuée sur un système unique. Bon, on a vu cette notion un grand nombre de fois, mais je voudrais contraster avec ce qu'on appelle une mesure dans les livres de mécanique quantique traditionnelle. Donc, on décortiquera une mesure en particulier, la mesure finalement d'un bit quantique, la composante Z d'un bit quantique par un amplificateur limité quantiquement. L'intérêt finalement de ces amplificateurs quantiquement, c'est que leur hamiltonien est parfaitement connu, on peut les décrire et les contrôler dans les moindres détails et comprendre exactement ce qui se passe lors d'une mesure. Donc on va décortiquer cet exemple et je parlerai aussi, je ferai un petit détour par une question annexe mais intéressante qui est celle de la mesure non pas d'un bit quantique, qui est un système non linéaire, mais ce qui se passe lorsqu'on essaye d'observer un oscillateur LC par le même amplificateur. Et finalement, j'arriverai au le but de cette leçon qui est de décrire le formalisme qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe dans une mesure continue. Et ce formalisme va être essentiel dans la leçon prochaine où on va discuter de la contre-réaction, enfin comment utiliser l'information en sortie de l'amplificateur pour contrôler le circuit, le système quantique. Alors je vous rappelle là très brièvement ce qu'on appelle une mesure, disons traditionnellement. Par exemple, je prends ce qui se passe dans une expérience de RMN. C'est où on va avoir un très grand nombre de spins qui vont être très faiblement couplés à un instrument de mesure. Ce qu'on appelle la faiblesse de la mesure ici est caractérisée par le fait que ces spins voient trois champs, on peut dire, un grand champ B qui définit leur hamiltonien, qui va définir la fréquence de Larmor, des plus petits champs fluctuants qui correspondent à leur environnement, qui vont faire un bruit aléatoire, qui vont perturber les spins, éventuellement donc détruire la cohérence des spins, et ils voient de la part de l'instrument de mesure un troisième champ fluctuant dû au processus de mesure, mais ce champ, en fait, au niveau de chaque spin, ce champ fluctuant va être considérablement plus faible que les deux autres champs. C'est ce qu'on appelle finalement, c'est ça qu'on appelle le régime de mesure faible. Et dans ce cas-là, on peut oublier complètement l'action en retour du système de mesure. C'est-à-dire, on peut finalement prétendre qu'il n'est pas là et que finalement toute la perte de cohérence du système est due à l'environnement. Donc, je vous rappelle le formalisme dans ces cas-là. Donc, on a des opérateurs pour le système. C'est grand S ici. J'ai pris l'exemple d'un spin de longueur quelconque. On a la matrice densité pour le système, qui est une moyenne d'ensemble sur tous ces spins. Donc on ne peut pas accéder à un spin en particulier, on accède à une moyenne. Et finalement, cette matrice densité évolue avec ces équations bien connues qui ont deux parties, une partie réversible due à l'hamiltonien du champ extérieur, et puis une partie dissipative qui est due à essentiellement l'environnement. On peut donc, dans cette approche traditionnelle, on oublie complètement dans l'évolution du système l'influence de l'appareil de mesure, qui lui finalement va juste mesurer. Donc cette moyenne, on prend pour un opérateur mesuré la trace du produit de la matrice densité par l'opérateur. Donc ça c'est, et je le rappelle, donc cette approche est possible quand finalement on compense la faiblesse du couplage avec l'appareil de mesure par le très grand nombre d'objets qu'on mesure. Donc voilà, ça c'est un bref rappel de la mesure, des mesures traditionnelles. Mais depuis une dizaine d'années environ, on sait maintenant faire des mesures très contrôlées sur des systèmes quantiques uniques. Donc la situation est tout à fait différente. Là, je représente finalement un seul spin. En général, ce spin n'est pas mesuré directement. La stratégie adoptée, c'est qu'on couple ce spin à un degré de liberté auxiliaire qu'on appelle donc une aiguille, en fait. Hein. C'est un degré de liberté, en général, un oscillateur qui va être, lui, mesuré. c'est un système auxiliaire. C'est le système qui va être détruit, lui, pendant la mesure, alors que ce système quantique unique, lui, est gardé intact. L'interface entre le monde classique, ici caractérisé par ces flèches pleines, très noires, ça sera l'amplificateur. Donc j'ai noté un peu tous les degrés de liberté ici. On va se limiter à un spin 1,5. Donc il y a les opérateurs sigma plus, sigma moins du spin 1,5. Les opérateurs A et A dagger de ce degré de liberté auxiliaire de l'aiguille de l'oscillateur de mesure. Et il y a les champs entrants ici dans l'amplificateur et les champs sortants. Donc on a des degrés de liberté bien identifiés pour ce processus de mesure. L'environnement ici va jouer un rôle annexe. En fait, la situation qu'on cherche à obtenir, c'est une situation dans laquelle l'environnement du système quantique, c'est tout simplement cette aiguille et l'amplificateur. C'est le système de mesure qui va être l'environnement du système quantique. C'est la situation vers laquelle on essaye de tendre. Bien sûr, il sera difficile d'éviter tout couplage entre le système quantique et puis des degrés de liberté non contrôlés, qu'on appelle ici environnement, mais on peut limiter cette interaction au minimum et faire, par exemple, pour donner un peu un ordre de grandeur, on est en train de réaliser, et où on va être très prochainement capable de réaliser, une situation dans laquelle, finalement, le rapport est à peu près de 1 à 100 entre, disons, l'influence sur ce système quantique individuel de l'instrument de mesure par rapport à, disons, les degrés de liberté non contrôlés. Alors, peut-être qu'il faut préciser un peu le vocabulaire. Ici, qu'est-ce que j'appelle finalement des variables classiques? Quand est-ce qu'on peut dire que, finalement, on ne va plus utiliser la mécanique quantique, parce que vous savez, il y a ce fameux paradoxe. On peut, en fait, ces flèches doubles, en fait, on peut en principe les continuer et les étendre à l'univers tout entier. La mécanique quantique s'applique à tous les systèmes. En fait, ici, je vais définir assez précisément ce que j'appelle finalement des variables classiques qui correspondent à un traitement classique dans la mesure. Eh bien, on va dire que une variable est classique lorsque, enfin, plus exactement, un couple de variables peut être traité comme classiquement lorsque le commutateur de ces deux quantités en valeur moyenne va être bien inférieur au produit des valeurs moyennes des deux opérateurs. Ça, c'est une définition tout à fait raisonnable. Lorsqu'on sera dans cette situation, eh bien, on peut oublier le traitement quantique. Un exemple, eh bien, pour ces champs de rayonnement micro-ondes qu'on a déjà discuté, eh bien, le commutateur entre le champ et finalement l'hamiltonien de ce champ, qui est de cette forme ici, est donné. La valeur moyenne de ce commutateur, c'est en fait la valeur moyenne du champ, qui est inférieure au produit des valeurs moyennes ici, lorsque le nombre de photons considérés est très supérieur à 1. Bon, tout ça veut dire qu'en gros, avec le genre de signal qu'on va traiter, eh bien, en première approximation, il est sain de considérer que lorsque le nombre de photons sera très élevé, eh bien, on peut traiter le système classiquement. Il y a des exceptions, mais oui, vas-y.
Les états comprimés dans le régime de variables continues, ça échappe à cette...
Oui. Oui, oui, il y aura il y a certaines situations où ce qui pourrait sortir de cette boîte ici échapperait à cette. Absolument. On pourrait, par exemple, avoir une boîte ici qui fabrique enfin, on pourrait imaginer que tout est parfait et que cette boîte est telle qu'elle sort d'un chat de Schrödinger, par exemple. Et donc, évidemment, il faudrait introduire une étape supplémentaire. Mais tôt ou tard, dans cette chaîne que j'ai coupée juste après cet amplificateur, eh bien, il va y avoir un moment où ces conditions vont être réalisées. C'est là où on va passer, on va traiter les variables comme classiques. On sait de toute façon, on sait que par essence même, le fait de traiter l'information ici va imposer à un moment donné qu'on va être dans ce régime. Non, la seule exception où ce schéma devrait être entièrement traité comme entièrement quantique, c'est lorsque cet ordinateur de traitement serait lui-même quantique. La discussion de ce cas est assez philosophique et je vous renvoie au livre de David Deutsch si vous êtes intéressé par ce genre de paradoxe, enfin, par les paradoxes qui naissent de cette configuration. Mais on va supposer qu'on traite nos données par un ordinateur classique. Voilà. Donc, comme je l'annonçais, l'intérêt de ces situations nouvelles qu'on discute, c'est que l'amplificateur peut être décrit absolument dans ses moindres détails microscopiquement. Donc, cette boîte qu'on appelle l'amplificateur, qui a un port d'entrée et un port de sortie, donc on est maintenant capable de la désosser complètement. Elle est composée d'un amplificateur paramétrique non dégénéré idéal, donc qui travaille en réflexion et qui a deux ports, un port signal et un port idler, image, qui est relié ici à une source froide, une source 50 ohms, qui est adaptée à l'impédance de ces lignes de transmission. Et on a ici un circulateur qu'on a discuté, un circulateur à quatre voies, ce qui permet de séparer donc le signal d'entrée et le signal de sortie, et surtout aussi de séparer les bruits, c'est-à-dire que ce n'est pas le bruit qui pourrait arriver par la sortie qui influence l'entrée. Ce quatrième port ici permet de définir parfaitement le bruit en retour. C'est donc le bruit en retour de l'amplificateur correspond aux fluctuations de cette résistance. Et cet amplificateur va fonctionner dans la limite quantique lorsque les champs ici sortant des résistances, donc que j'ai appelé W ici et E pour cette autre résistance, quand ces résistances sont à température nulle, c'est-à-dire en gros lorsque leur énergie, l'énergie par mode est bien inférieure à l'énergie des photons, eh bien on sera dans un régime où cet amplificateur fera un minimum de bruit. Cet amplificateur est décrit par des relations entrée-sortie très, très explicites. Pour le décrire, il faut donner la valeur des champs out, U out et V out, en fonction des champs U in et V in. Et c'est donné par ces équations. Et donc deux champs interviennent. Les champs sortant de ces résistances et dont on connaît parfaitement dont le bruit est parfaitement connu. Sinon, la matrice de scattering de cet amplificateur est indiquée ici. Donc G va être le gain en puissance de l'amplification et vous voyez que le circulateur ici évite tout gain inverse. Cet élément de matrice serait, comme on l'a vu, serait le gain inverse. Et ici, dans cette configuration, il est, le gain inverse est zéro. Ces deux éléments de matrice nuls ici correspondent au fait que l'amplificateur est parfaitement adapté en impédance pour une entrée qui a la même impédance que les lignes de transmission ici. Voilà donc la partie amplification du système parfaitement décrit. Et en fait, cette situation est assez semblable à ce qu'on sait réaliser en physique atomique, notamment dans le groupe de Serge Haroche. Mais ici, il y a quand même une différence fondamentale. À la différence de la physique atomique, le système mesuré ici est un circuit parfaitement fixe. Donc nos atomes ne bougent pas dans l'espace. Ils correspondent à des systèmes parfaitement fixes. C'est plutôt les photons qui sont manipulés, qui peuvent à la fois, être donc des ondes, correspondre à des ondes stationnaires ou progressives. Et la grande différence aussi, c'est que ces photons peuvent avoir une fonction d'onde parfaitement contrôlée, du moins beaucoup mieux contrôlée que dans les expériences de physique atomique. C'est le gros avantage de notre domaine. C'est l'avantage de travailler avec des fréquences micro-ondes. Voilà. Donc, on a décrit toutes les pièces de l'expérience et on va maintenant passer un certain nombre de minutes à décrire exactement ce qui se passe lors de la mesure. Et là, on va parler de la mesure de la composante Z de ce spin effectif du qubit. Le qubit est schématisé par ce circuit. Ça pourrait être différents qubits supraconducteurs, ça pourrait être un transmon, ça pourrait être un fluxonium, ça pourrait être un qubit en flux. Ça n'est pas très important à ce niveau-là. L'hamiltonien va toujours être de cette forme. On a ici un hamiltonien de type Zeeman qui donne la fréquence de transition entre l'état fondamental et l'état excité. On a un résonateur ici qui nous sert d'aiguille, ça va être l'aiguille de mesure du système, et oméga R va être la fréquence de résonance du résonateur. Cette fréquence de résonance est choisie et loin de cette fréquence de transition pour qu'on ait une mesure complètement dispersive et sans démolition. Et le couplage entre le résonateur et le qubit se fait par cet hamiltonien qui est donc en quelque sorte du quatrième degré, hein, et qui couple finalement la composante Z du qubit, exprimée ici par ce produit sigma plus sigma moins, au nombre de photons dans le résonateur. Donc ce couplage est un exemple de couplage sans démolition. Si vous mesurez le nombre de photons dans le résonateur, eh bien, ne changez pas le nombre, le degré d'excitation du qubit. Par contre, effectivement, si le qubit est dans une superposition d'état E et d'état G, bien sûr, la mesure du nombre de photons va projeter le système. Donc la force de la mesure, en quelque sorte, est caractérisée par ce paramètre qui. L'expérience, nous l'avons décrit plusieurs fois, on envoie des micro-ondes à la fréquence de résonance du qubit, on va préparer le qubit, et dans un second temps, on va envoyer une impulsion à la fréquence du résonateur qui va venir sonder, donc qui va mesurer l'aiguille. Donc il y a deux temps. Il y a intrication entre le qubit et l'aiguille, et puis mesure de l'aiguille par ce système d'amplification. Donc la mesure est basée sur le phénomène suivant. Si je regarde le déphasage des ondes, de ces ondes vertes en provenance du générateur de mesure, lorsqu'elles sont réfléchies par le résonateur, je vois qu'il y a un déphasage de 2π au voisinage de la résonance du résonateur. Et cette courbe donnant le déphasage se trouve décalée, puisque finalement le qubit influence la fréquence du résonateur. Cette fréquence se trouve décalée par cette quantité qi lorsqu'on passe de l'état fondamental à l'état excité pour le qubit. C'est ce phénomène ici que l'on exploite. Et la courbe est d'autant plus raide que le facteur de qualité du résonateur est bon. Et en fait, donc, l'angle, le déphasage induit par le changement d'état ici, que j'appelle θ, et va être donné par le rapport entre deux quantités. Cette quantité qui, cette fréquence correspondant au couplage, cette fréquence est un petit peu, si vous voulez, la valeur de cette capacité ici, divisée par la durée de vie des photons dans le résonateur, ce nombre kappa, qui correspond à la valeur de cette capacité ici. Et nous allons voir que la mesure est en quelque sorte optimum lorsque ces deux quantités seront voisines et éventuellement identiques. Je donne un exemple. Donc, si on avait un transmon comme qubit, on peut calculer très rigoureusement ce facteur qui ici, et c'est donné simplement par l'énergie de Coulomb fois g carré sur delta carré, où delta ici est la différence de fréquence entre la fréquence du résonateur et la fréquence du qubit, et g le couplage entre les deux systèmes. Regardons pas à pas. Vraiment, on va prendre cette mesure pas à pas et examiner ce qui se passe précisément sur les fonctions d'onde des différentes parties quantiques de ce système lorsque la mesure s'effectue. Donc, au départ, on va envoyer une impulsion. Ce générateur micro-ondes contrôlant le qubit envoie une impulsion dont on peut faire varier la hauteur. Et suivant l'amplitude de cette impulsion, on va préparer différents états. Et là, je vais me limiter à finalement trois types de préparation. On pourra laisser le qubit dans son état fondamental, G, ou passer dans l'état excité, ce qui correspond à un pulse de pi, ou on peut s'arrêter entre ces deux états et produire un état qui pointe suivant X, une superposition cohérente d'états G et E. L'aiguille va être constituée par les photons qui sont dans ce résonateur et qui sont envoyés sous forme d'une impulsion par ce générateur. C'est une impulsion plus longue que l'impulsion qui a servi à préparer le bit. C'est ce signal qui va passer par le résonateur et qui va être réfléchi et qu'on va amplifier par la suite. La particularité de ce signal, c'est qu'il est en général plus long, donc sa durée, c'est Tm ici, et c'est plus long que la durée de vie du résonateur. Ce qui correspond à utiliser, on peut dire, non pas, disons, une grande aiguille unique, mais une succession de petites aiguilles. Cela revient un peu au même. Ceci est dû au fait que plutôt qu'une grosse impulsion qui aurait en fait la durée de vie correspondrait à la durée de vie du résonateur, on est forcé de limiter le nombre de photons dans ce résonateur parce que lorsque le nombre de photons devient trop grand, trop élevé, cette approximation QND qu'on a faite, cet Hamiltonien que j'ai écrit n'est plus tout à fait valable. Donc, et puis, d'autre part, une autre raison que l'on a pour rendre cette impulsion longue, c'est qu'on peut vouloir surveiller le qubit en permanence et donc continuer la mesure. Une fois qu'il est dans un état bien défini, il pourrait en changer parce qu'on pourrait avoir d'autres influences ici qui le modifieraient. Donc, ce qu'on cherche à voir, c'est pouvoir surveiller en permanence le qubit. La longueur de cette impulsion va être finalement limitée. La limite sur cette impulsion, sur le temps pendant lequel on peut surveiller le qubit, ça va être le temps T1. L'amortissement de l'énergie dans le qubit dû à des degrés de liberté incontrôlés dans son environnement. Là, j'ai donné quelques ordres de grandeur typiques de ces trois temps qui sont impliqués dans la mesure. On a maintenant pour ces qubits supra des temps T1 qui peuvent être supérieurs à 10 microsecondes et les durées de vie de ces cavités qui servent à la mesure sont une vingtaine de nanosecondes. Donc, vous voyez, ça laisse de la marge ici pour la longueur de cette impulsion. Je vous rappelle que les fréquences de résonance de ces résonateurs de mesure se situent aux alentours de 8 GHz, qui correspond à une différence avec la fréquence du qubit d'à peu près 1 GHz. Donc là, ce que je décris dans ce schéma, ça va être dans le plan des quadratures, dans le plan des composantes de la composante complexe de ce signal, je représente ce mode que l'on envoie dans le système pour effectuer la mesure du qubit. Et donc là, ça me permet d'introduire le nombre de photons utilisés dans la mesure. Et ce nombre de photons va correspondre au carré de la distance ici entre l'origine et la tâche d'incertitude correspondant à ce mode. Nous avons vu plusieurs fois cette représentation. Cette tâche ici va avoir une surface qui est donnée par les fluctuations de point zéro, l'énergie des fluctuations de point zéro de ce mode. En principe, avec des composants thermalisés correctement, les fluctuations de dans ce mode qu'on envoie pour effectuer la mesure seront d'origine purement quantique. Donc, ces fluctuations ici sont dues au mouvement de point zéro. Voilà le signal ici en route vers le résonateur. Il n'a pas encore interagi avec le qubit. Une fois qu'il a pénétré dans le résonateur et qu'il est entièrement ressorti, on a en quelque sorte fait l'acquisition de l'état du qubit. On va avoir deux types de signaux représentés ici par une sucette bleue ou une sucette rouge, suivant que le qubit est dans l'état l'état G ou E. Cet angle entre les deux sucettes, le déphasage entre ces deux sucettes, correspond à cet angle θ que j'ai défini ici. Il est dû, en fait, à l'accumulation du déphasage dans le résonateur dû à la présence du qubit. Encore une fois, une façon très commode de se représenter ce qui se passe, c'est qu'on peut considérer que le qubit est une espèce d'isolant placé dans le résonateur avec une constante diélectrique différente suivant qu'il est dans l'état G ou dans l'état E. Donc cette constante diélectrique différente modifie un tout petit peu la fréquence du résonateur et donc va influencer le déphasage de l'onde à la sortie du résonateur. Alors, quelque chose d'extrêmement intéressant ici, c'est que si on le qubit n'a pas du tout, disons, dans le temps, pendant le temps de cette impulsion verte, n'a pas subi ni déphasage ni relaxation, ce qui est tout à fait possible de nos jours. Et si le résonateur ici est suffisamment bon, si les lignes ici n'ont pas de perte, eh bien, on a une situation très remarquable, puisque si on avait préparé le qubit dans une superposition d'états G et E, eh bien, le champ qui sort ici est dans cet état de type chat de Schrödinger, puisqu'on a en quelque sorte les deux sucettes à la fois. On a à la fois une superposition d'un état constitué par le qubit dans l'état E, excité, avec les photons du résonateur dans cet état cohérent alpha E, et superposition cohérente avec l'état dans lequel le qubit est dans l'état G et les photons dans l'état alpha G. Donc, si vous avez, par exemple, une dizaine, voire une vingtaine de photons ici dans l'impulsion que vous envoyez, vous avez un chat de Schrödinger assez impressionnant qui contient 10 ou 20 quanta. Alors, ce chat ne va pas vivre très longtemps. Ce que je représente ici, c'est le champ lorsqu'il est... On va imaginer que, disons, cette impulsion qui ne tient... En quelque sorte, c'est la question que tu soulèves, Denis, c'est que cette impulsion ne tient pas entièrement dans le résonateur. Elle pourrait, si elle avait un temps qui était égal à la durée de vie du résonateur, mais en fait, on l'a choisi plus long. Mais ce détail n'est pas très fondamental. Imagine, donc, cette impulsion voyage le long des câbles. Elle se trouve en partie dans le résonateur. Pendant qu'elle se trouve en partie dans le résonateur, elle acquiert un déphasage. Mais une fois qu'elle sera passée entièrement, elle aura fait cet aller-retour, elle aura acquis un déphasage en bloc, qui est ce que je représente ici par cet angle θ. On va voir tout à l'heure qu'on peut regarder un peu plus finement ce qui se passe et regarder des petits morceaux de cette évolution. Mais là, pour l'instant, je discute l'évolution en bloc, c'est-à-dire j'ai en quelque sorte, pour l'instant, je considère que j'ai un mode micro-ondes. Il est long et il contient relativement un grand nombre de photons. Mais effectivement, sa longueur est choisie de telle façon qu'à un moment donné, il n'y aura que, disons, que quelques photons dans le résonateur. En fait, avec les nombres que j'ai choisis ici, il y aura en moyenne un photon dans le résonateur, qui est la situation qui semble être celle qu'il faut employer pour le fluxonium. Pour le transmon, bon, vous avez réalisé des expériences dans lesquelles ce nombre peut être plus élevé, mais enfin, bon, ce nombre ne semble pas vouloir être 100, par exemple, ou 1000. Donc, on aura toujours un petit nombre de photons à la fois dans le résonateur, bien que l'impulsion puisse contenir un grand nombre de photons. Le nombre de photons total utilisé dans cette mesure sera donné par le rapport, enfin le produit entre le nombre de photons qu'on aura dans le résonateur fois le rapport entre ce temps de mesure et le temps de vie de la cavité. Donc je continue l'histoire. Donc l'impulsion a interagi avec le système et est ressortie. Et finalement, c'est cette impulsion dans son ensemble qui constitue notre aiguille. Et à l'entrée du... à la sortie du... Là, maintenant, je saute par-dessus l'amplificateur. Donc à la sortie de l'amplificateur, ces deux sucettes auront grossi. Le nombre de photons a été multiplié par le gain. Ici, bien sûr, c'est dans ma représentation, elle est très schématique. je n'ai allongé un tout petit peu cette longueur. En pratique, on cherche à obtenir des gains au moins d'un facteur 100, donc la figure n'aurait pas tenu sur le transparent, mais vous imaginez l'accroissement d'énergie du signal et la contrepartie, c'est-à-dire le bruit, donc l'accroissement des tâches d'incertitude dues au bruit rajouté par l'ampli. Donc ces deux sucettes ici correspondent à ce qu'on trouve à la sortie ici de l'amplificateur. Alors à ce stade, même si on a réussi à conserver un chat de Schrödinger à l'entrée de l'amplificateur, je dois dire qu'à la sortie, là, on peut déclarer de façon très sûre que le chat est mort. Pourquoi ? Parce que dans ce schéma, bon, je pense que ça va vous paraître absolument évident, mais dans ce schéma, je n'ai pas inclus ce port de sortie. On jette une partie de l'information. À l'intérieur de l'amplificateur, il y a cet amplificateur paramétrique idéal. On a jeté l'information dans cette résistance. C'est une résistance interne à l'amplification. Et là, la destruction du chat s'est effectuée. On pourrait imaginer un système de mesure beaucoup plus sophistiqué dans lequel ce port idler serait lui ensuite traité. On aurait un système de mesure plus sophistiqué, mais disons, là, je vais me contenter d'analyser ce qui se passe avec un ampli de type ampli-op. Et donc là, pas de problème, il n'y a plus de chat de Schrödinger. On est dans une situation où on a soit cette sucette bleue correspondant au qubit dans l'état fondamental, soit cette sucette rose correspondant au qubit dans l'état excité. J'espère que c'est tout le monde est d'accord à ce niveau. Bon. Alors il y a une dernière étape. Il faut rentrer dans l'ordinateur maintenant. On a donc là, je représente le signal à la sortie. En général, on fait la mesure la plus simple correspond à une mesure homodyne. On prend le signal de sortie de l'amplificateur et on le mélange avec une copie du signal correspondant à ce qu'on a envoyé dans le résonateur. Donc c'est cette fameuse détection synchrone qu'on a vue dans la première leçon. Et ça, si vous voulez, ça permet de faire une coupe dans ce plan des quadratures ici. Donc c'est comme si on avait projeté ces deux sucettes sur une ligne verticale et on obtient donc deux distributions de probabilité pour l'amplitude à la sortie de ce mixeur, donc cette amplitude homodyne. Et donc ces deux tâches, la séparation entre ces deux tâches va constituer vraiment la mesure, le nombre, la distance entre ces deux tâches va être le nombre qu'on va récupérer ici, qu'on va convertir et qui va rentrer dans l'ordinateur. Donc on peut définir deux quantités, le rapport signal sur bruit. Donc le rapport signal, d'abord le signal, quel est le signal? Le signal, c'est la séparation entre ces deux pics. On voit qu'elle va être proportionnelle à deux influences. Il y a d'une part le nombre de photons qui ont servi à effectuer la mesure, donc cette longueur des bras ici, et puis l'angle. Évidemment, plus on a réussi à avoir un couplage fort entre cette impulsion de mesure et le qubit, plus cet angle est grand, plus évidemment le signal sera fort. Le bruit, quant à lui, le bruit s'est donné par la largeur des tâches et ça est donné ici par le bruit de 0.0 du signal qu'on a envoyé à l'entrée, donc émis par le générateur qui a servi à la mesure, augmenté de ce nombre A qui correspond aux photons rajoutés par l'amplificateur. on peut définir une autre quantité qui est la fidélité de la mesure, qui est en quelque sorte l'amplitude. Si vous intégrez ici la tache bleue, ici, eh bien vous avez le nombre, la probabilité d'avoir deviné, de connaître l'état du qubit. Et c'est, disons, le rapport signal sur bruit et la fidélité sont proportionnels lorsque ces quantités sont petites. Alors, je vois que on. Enfin, normalement, vous devriez voir une tache rose ici. Ce que j'ai voulu représenter, c'est ce qui se passe dans une mesure hétérodyne. En fait, on peut, au lieu de faire une mesure homodyne comme celle-ci, on peut faire une mesure hétérodyne en utilisant en envoyant non pas la copie de l'impulsion qui a servi à exciter le système, mais une copie décalée en fréquence que l'on envoie sur le mixeur. Ceci correspond au mélange hétérodyne qui permet de faire non pas une coupe ici, de faire non pas une projection sur l'axe Y, comme j'ai représenté ici, mais une projection aussi sur l'axe X, ce qui correspond à la mesure en phase, la mesure I, et la mesure homodyne précédente, c'est la mesure Q. Donc, dans ce genre de mesure, on obtient un point dans un espace à deux dimensions, et c'est ça qui va représenter le résultat de la mesure. L'avantage d'avoir un ampli de type op-amp, c'est qu'on peut justement surveiller ce qui se passe à la fois en phase et en quadrature. En principe, donc avec les convertisseurs analogues digitaux qu'on a, on peut avoir ici un nombre de pixels qui peut être environ de l'ordre de 100 000. Voilà un exemple de ce type de mesure qu'on a effectué dans notre laboratoire sur un fluxonium. Voilà les deux tâches dans l'espace des quadratures correspondant à l'état E et l'état G du qubit. Vous voyez que malheureusement, les tâches ne sont pas très séparées. Ceci correspond à une fidélité de un tiers, ce qui correspond à un rapport signal sur bruit à peu près équivalent, à peu près de 1,5. Normalement, avec le qubit qu'on devait avoir, j'aurais préféré vous montrer les tâches séparées. En fait, dans cette expérience, pour des raisons techniques, le couplage avec le qubit était assez faible et on a ici une séparation qui est en fait 10 fois inférieure à ce qu'on aurait pu espérer avec la durée de vie du qubit. Oui.
C'est un jeu de données ou deux jeux de données?
Alors, je vais bien préciser ce qui se passe. Là, on a répété la mesure 25 000 fois. Donc, le protocole que j'ai indiqué précédemment, excitation du qubit et puis envoi d'une impulsion, a été répété 25 000 fois. Et chaque pixel correspond à l'accumulation d'une mesure. Et la densité, finalement, la couleur, l'intensité de la couleur est proportionnelle au nombre de fois qu'on a trouvé une expérience donnant ce pixel. Hein? Donc, il est bon peut-être de répéter ce qui se passe. Pour chaque expérience, on va atterrir quelque part dans cette grille. Et après, on va faire un histogramme de chaque point de la grille. Chaque point de la grille, on va indiquer par la force de la couleur le nombre de fois qu'il a été visité. Et donc, finalement, ceci vous donne une image des sucettes vues de haut.
Mais là, il y a deux couleurs.
Il y a deux couleurs, oui, parce qu'on a... il y a eu 25 000 acquisitions pour le qubit préparé dans l'état G, qui ont donné ces tâches bleues, et 25 000 pour préparer. C'est pas E plus G. En fait, E plus G donne strictement la même chose. Oui, si, effectivement, c'est absolument correct. absolument. Si on avait préparé E plus G, on aurait eu une courbe avec... Donc, ce qu'on espère, bien sûr, c'est d'avoir deux bosses bien résolues, même lorsqu'on prépare le qubit dans l'état E plus G. Mais enfin, voilà l'état un peu de l'art, du moins dans notre laboratoire. Je pense que si dans les conditions... dans le séminaire donné par Irfan Siddiqui... Donc c'était un petit peu le même type de mesure qui avait été fait, mais pas avec un ampli linéaire. Ici, il s'agit d'une amplification strictement linéaire. Il n'y a absolument rien qui force ces deux bosses à se localiser sur cet axe. Donc c'est quand même plus dur. Voilà, donc j'ai introduit ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit dans ce genre d'expérience, et finalement... ça va nous déterminer ce rapport signal sur bruit. Je vous rappelle, c'est le nombre de bits. On peut le voir comme le nombre de bits d'information qu'on a extrait de la mesure par cette mesure globale, hein, correspondant à tout le pulse. Et les facteurs qui interviennent dans ce nombre de bits total obtenu par la mesure. Là, je m'appuie sur un article de Jay Gambetta et collègues, paru en 2008. Il y a des facteurs qui apparaissent comme triviaux. Il est évident que plus on mesure longtemps, plus on va acquérir d'informations sur le système. Donc on a TM. Ce facteur état en face, c'est l'efficacité de l'amplificateur, donc qui est directement relié au bruit ajouté par l'amplificateur. On peut tout à fait être dans un cas où l'efficacité est 1. On a vu le cas d'amplificateur paramétrique dégénéré correspondant à un A égal à 0. Dans ce cas-là, vous voyez, état va être égal à 1. Dans le cas de notre ampli de type op-amp, on paye toujours un demi-photon de bruit, donc là, on aura une efficacité de 50%. Le reste des facteurs, on a déjà vu donc l'influence du nombre de photons, ici, qui a été exprimé par le nombre de photons dans le résonateur. J'aurais pu mettre le nombre de photons total en faisant disparaître ce facteur kappa, mais j'ai préféré... décomposer l'expression sous cette forme parce que ces deux facteurs ici sont nécessairement de l'ordre de l'unité. Vous ne pouvez influer que sur ces autres facteurs. Alors, ce qui est très très important, la quantité clé qui va se dégager ici, c'est tout ce qui est à droite de ce symbole vert. Hein. Donc, on va prendre tous ces symboles noirs et les mettre dans un paquet et qui va s'appeler le taux d'acquisition de la mesure. C'est un débit d'information. Ce gamma m, c'est le nombre de bits par unité de temps qu'on extrait de la mesure, mais que l'on extrait de la mesure en excluant, bien sûr, les pertes dans l'amplificateur. C'est le nombre de bits qui arrivent à l'entrée de l'amplificateur. C'est une quantité absolument fondamentale. C'est la rapidité avec laquelle on sonde le système. Et on voit qu'il y a une espèce d'optimum qui s'effectue lorsque ce facteur key, le cavity pool, est égal au temps, de décroissance des photons dans la cavité, eh bien, on aura un optimum de ce temps de ce débit. Hein. Ça, vous rappelez, ce facteur key et ce facteur kappa correspondent à deux capacités, une en entrée en quelque sorte, une en sortie de ce résonateur. Lorsqu'on a égalité, on a adaptation d'impédance en quelque sorte, de la mesure, et on aura un optimum pour ce débit. Bien sûr, le débit peut toujours être augmenté en augmentant le nombre de photons en moyenne qu'on a dans le résonateur, mais on est très contraint de ce côté-là. Alors, maintenant, on va se poser, dans la dernière partie de cet exposé, je vais développer une notion très importante qui est la suivante. Donc, je vous ai parlé d'une mesure effectuée en envoyant un pulse bien déterminé, dans le système constitué par le qubit et le résonateur. Maintenant, ce pulse, comme on peut évidemment l'imaginer, il peut être tronçonné en pulse plus petits. On peut imaginer que finalement, il est composé de pulses beaucoup plus petits l'un à la suite des autres. Et chacun de ces pulses élémentaires correspond à une mesure élémentaire qu'on itère pour finalement faire une mesure complète. Donc, ça, c'est l'idée de mesure continue. Toute mesure projective, peut être conçue comme l'itération de mesures continues, comme l'acquisition, disons comme l'intégration d'une mesure continue. Et ce gamma M est une quantité fondamentale puisqu'elle caractérise la force, en quelque sorte, la rapidité de cette mesure continue. En intégrant finalement ce taux d'acquisition, ce bit rate ici, on transforme cette itération de mesure continue en une mesure projective. Donc, comment ça se décrit ceci ? Le formalisme est le suivant. Au début, on prépare un système mixte composé du système qu'on veut mesurer, qui correspond à cette fonction donc psi, et de cette aiguille de mesure dont l'angle ici est alpha. Donc, dans l'interaction entre les deux systèmes, naît un état. Donc, ça, c'est ce qui se passe après le résultat de la mesure. Cet état va être un état intriqué. On a vu qu'on créait un chat de Schrödinger. Mais lorsque l'on va mesurer finalement l'aiguille, ici alpha de t, donc, qui est effectuée par cet opérateur R, on va projeter le système, on va désintriquer le système dans un état produit. Et on peut définir ce qu'on appelle l'opérateur de mesure, cet opérateur MR, qui correspond à la modification de cet état initial du système dû à la mesure. Cet opérateur MR généralise en quelque sorte à ce système de mesure composite la notion d'observable, ou plus exactement de projecteur, en mécanique quantique ordinaire. Donc, ici, on a une situation qui est assez différente de la situation décrite de manière habituelle, parce que l'espace de Hilbert correspondant à l'aiguille, donc, qui est le pointeur, donc, est en fait un espace beaucoup plus vaste que l'espace du système. Je vous rappelle un peu les dimensions. Donc, on a pour le qubit deux états, c'est un spin 1/2. Par contre, le pointeur, l'aiguille, peut contenir jusqu'à 20, 30, 40 photons, donc un espace de Hilbert beaucoup plus grand. Je vais faire une parenthèse très brève. Je vous ai décrit comment on mesure un spin 1/2 en utilisant un amplificateur limité quantiquement. Cette mesure du spin 1/2 comportait un oscillateur intermédiaire qui sert de système auxiliaire. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si en fait on voulait mesurer l'état de cet oscillateur. Là, il faut bien comprendre que cet oscillateur, dans cette mesure du qubit, est un système que l'on jette. Il est modifié par le qubit. On envoie ceci, on envoie l'aiguille, elle interagit avec le qubit, elle revient modifiée, on l'amplifie, mais en l'amplifiant, on la jette. Donc, c'est une mesure, la mesure du qubit n'est pas destructive, mais la mesure de l'aiguille l'est. La question qu'on peut se poser, c'est si on n'avait qu'une seule aiguille et qu'elle constituait notre système, qu'aurait fait l'amplificateur ? Est-ce qu'on peut se servir de l'amplificateur pour juste mesurer un oscillateur ? Après tout, on peut très bien coupler notre amplificateur au résonateur, préparer le résonateur et puis le coupler directement. Alors, est-ce que ce système peut marcher ? Alors, la réponse, c'est oui, mais pas tout à fait dans la version naïve. En fait, voilà un système qu'on peut décrire complètement. Donc, j'ai décrit les équations constitutives de l'amplificateur. J'ai décrit le bruit, disons, en tension, le bruit en courant. Le bruit en courant, je vous rappelle, pour l'amplificateur, c'est important, c'est l'action en retour que l'amplificateur exerce sur le système mesuré. Et finalement, ce bruit, ces deux bruits peuvent être exprimés en fonction de ces champs. Donc, on peut parfaitement calculer le bruit à la sortie de l'amplificateur et on s'aperçoit, quand on fait ces calculs d'un problème, lorsque l'impédance d'entrée de l'amplificateur, ce ZA, ici, est différente de l'impédance du résonateur, qui est quand même la situation que l'on va chercher à obtenir si on veut que l'amplificateur ne modifie pas trop le résonateur, qu'il ne fasse qu'une mesure perturbative, eh bien, on a pour ce bruit en sortie, non pas une source froide, mais deux. Et ça, c'est très mauvais, parce qu'on ne va pas on va pas faire cette mesure avec un minimum de bruit. En fait, si vous voulez, le bruit, une façon de décrire la situation, c'est que le bruit en retour de l'amplificateur sur le résonateur est trop grand par rapport à l'information qu'on acquiert sur le résonateur. Il n'y a pas un bon accord d'impédance, en quelque sorte, entre guillemets, entre l'instrument de mesure et le système mesuré. En fait, de façon assez curieuse, on peut résoudre ce problème. Alors, évidemment, la solution qui consiste à prendre ZA et ZS n'est pas très satisfaisante en général parce que à ce moment-là, l'amplificateur amortit le résonateur. Donc, on va diminuer considérablement le temps de vie des états du résonateur. Mais en fait, on peut quand même tout à fait effectuer une mesure parfaitement efficace de l'état du résonateur. Enfin, efficace au sens des relations d'incertitude d'Heisenberg, c'est-à-dire en ne perturbant le résonateur pas plus que ce que le principe d'incertitude d'Heisenberg nous impose, et ceci en introduisant un élément dans l'amplificateur. En fait, dans cette voie ici, qu'on a décrite précédemment, on va intercaler un miroir dont le coefficient de réflexion est exactement inverse du gain en amplitude de l'amplificateur paramétrique. En fait, ce qu'on réalise, c'est une espèce de contre-réaction. On renvoie une partie de la sortie ici dans l'entrée et cette contre-réaction, en fait, permet d'atteindre la limite quantique et donc de coupler l'amplificateur à l'oscillateur de manière optimale. Je décris ceci de manière très succincte. On examinera cette situation plus en détail l'année prochaine. La morale qu'on peut retirer de cette situation, c'est qu'une façon de savoir si la mesure est efficace ou pas, c'est de voir si l'information acquise par le système est en quelque sorte perdue ou non dans le circuit. Lorsqu'effectivement, ici, il y avait, par exemple, dans le circuit de l'information perdue, il y avait trop de ports de sortie dans la mesure précédente, puisqu'on a deux résistances ici. Et ce miroir, il finalement permet de n'avoir qu'un seul mode influençant le résonateur. Et donc, on minimise l'information perdue par la mesure. Voilà, donc c'était un petit détour. J'arrive maintenant au but de cette leçon. Et le but final de cette leçon, c'est de vous donner un aperçu. Je développerai ce thème beaucoup plus en détail dans la dernière leçon, la semaine prochaine. Mais voilà un aperçu de ce qui va se passer. Donc, on va essayer de décrire la mesure en train de se faire, l'évolution de la mesure et la façon dont elle réagit sur le système. On a, je vous le rappelle, un système avec un Hamiltonien parfaitement bien défini. Voilà l'Hamiltonien du système du qubit et de son aiguille. L'aiguille est couplée à un amplificateur. Ceci, c'est les équations. Et on peut écrire donc l'équation maîtresse pour le système global que j'ai écrit ici. C'est la forme générale de l'équation maîtresse. Chaque indice ici correspond à un canal de perte d'information pour le système. Et on peut projeter cette équation dans l'espace de Hilbert du qubit et obtenir l'équation pour la matrice densité du qubit sous l'influence de la mesure. On obtient une équation de type équation de bloc. Donc les différentes composantes du qubit vont relaxer un peu à la manière de ce qui se passe dans une expérience de RMN. Il y a une différence absolument fondamentale ici. Donc dans une expérience de RMN classique, alors je vois qu'il y a un problème ici. Oui. Dans une expérience de RMN, on aurait deux sources de relaxation, la relaxation longitudinale, la perte d'énergie par le système qui est quantifiée par ce paramètre gamma, et ce paramètre gamma phi ici quantifie la perte de, disons, c'est le déphasage du système. Il va s'introduire un nouveau déphasage, un déphasage supplémentaire dû à la mesure. Donc, ça, c'est dans le fond assez simple. Lorsque notre aiguille, finalement, cherche à savoir si le qubit est dans l'état 0 ou 1, donc on cherche à mesurer la composante longitudinale du qubit, la projection Z, et cette mesure, l'influence de la mesure pour le qubit va correspondre à un déphasage supplémentaire. Et là, on voit quelque chose qui s'introduit, qui est tout à fait remarquable. Vous voyez qu'on se retrouve encore dans une situation du type fluctuation-dissipation. Vous avez l'instrument de mesure acquiert de l'information sur le qubit avec un taux gamma m. Mais on retrouve ce taux gamma m dans quelque chose qui, a priori, est assez différent, qui est le déphasage du qubit. C'est vraiment la contrepartie. On ne peut pas mesurer la projection suivant Z du qubit sans introduire de déphasage. Donc, c'est bien normal que ce terme fasse intervenir cette même quantité gamma m. Alors, cette équation maîtresse décrit en moyenne ce qui se passe pour le système alors qu'il est mesuré. On va vouloir avoir une information supplémentaire dans une réalisation particulière, c'est-à-dire lorsqu'on est en train d'acquérir ces pixels, finalement, que se passe-t-il au cours du temps ? On pourrait, après tout, plus dans l'expérience où je vous ai montré les pixels correspondant à une impulsion longue, on pourrait acquérir l'information pas à pas et obtenir des pixels à chaque instant. Comment se décrit l'évolution de ces pixels ? En fait, cette évolution correspond à une marge brownienne. Donc voilà l'incrément, si vous voulez, l'incrément sur la position des pixels au cours du temps. Donc cette variable Q qui... La variable Q nous indique si le qubit est dans l'état E ou dans l'état G. Et cet incrément, en fait, est donné dans cette équation par deux termes. Il y a un terme aléatoire, ici, une espèce de bruit blanc qui fait intervenir comme, dans son amplitude ce taux de mesure et l'efficacité de la mesure. Vous voyez que plus la mesure est inefficace, plus en quelque sorte elle est bruyante, ce qui est assez normal. Et ce qui va intervenir ici, ce premier terme, correspond à l'état du qubit correspondant à, disons, la mesure précédente. Hein. C'est une... Il faut bien voir que ceci correspond à un intervalle, ce qui va ça va être un incrément. Ce z ici, c'est la projection du qubit sur l'axe z que l'on peut connaître à partir de l'ensemble des mesures précédentes. Donc, ceci forme une équation différentielle stochastique. Il y a une équation correspondante pour ZR que je vais vous donner dans un instant et qui permet de comprendre l'évolution. Là, je voudrais mentionner très brièvement que lorsqu'on est en présence de ces équations stochastiques, il faut ces équations différentielles stochastiques, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est sur la signification de ces quantités différentielles. Il y a deux langages. À l'intérieur d'un même langage, tout va bien, mais il ne faut surtout pas passer d'un langage à l'autre, sous peine de commettre d'erreur. Donc il y a deux versions possibles pour ces équations différentielles stochastiques, une version dite Stratonovich et une version Itô. Moi, je présenterai dans toutes ces leçons la version Itô. La version Stratonovich correspond à une... si vous faites ce genre d'intégrale, vous pouvez concevoir ce G indice T comme soit la moyenne des G à deux extrémités de l'intervalle, soit considérer que G est pris à l'extrémité de l'intervalle correspondant au temps le plus faible. Ici, on a une expression causale qui connaît la différence entre le passé et le futur, alors que cette expression ici est acausale, elle est parfaitement symétrique par inversion du passé et du futur. Donc chacun de ces langages a ses inconvénients et ses avantages. Le gros avantage ici de l'expression causale, c'est que lorsqu'on fait de la mécanique quantique, G ici et B sont des opérateurs, et cette forme ici permet d'avoir une commutation. On a le commutateur entre cette partie et cette partie sera zéro, ce qui est très pratique. Évidemment, le prix à payer, c'est que les règles de dérivation ordinaires sont un petit peu bouleversées. Ce n'est pas, bien, à mon avis, bien terrible. Lorsqu'on prend la différentielle d'un produit, eh bien, il s'introduit un troisième terme ici qui peut ne pas être négligeable. Lorsqu'on a ici un bruit... blanc gaussien, en fait, un mouvement brownien, ce troisième terme pourra être de rang comparable aux deux premiers, il faudra faire attention. C'est le prix imposé dans ce formalisme d'Itô. Donc, dans ce formalisme d'Itô, on peut obtenir les équations différentielles stochastiques correspondant à l'évolution de la matrice densité au cours du temps lorsque la mesure s'effectue. Et j'ai écrit ces équations, on va les voir plus en détail la fois prochaine, mais ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que, en fait, ces équations, lorsque le paramètre état, l'efficacité de la mesure est 1, lorsqu'on fait une mesure parfaite de cet état, eh bien, ce vecteur qui est sur la sphère de Bloch y reste. C'est-à-dire que si vous débrouillez pour mesurer de manière parfaite un système quantique, et on a vu que c'est tout à fait possible, eh bien, au cours du temps, le système reste pur. C'est quelque chose qui surprend le débutant. Il faut des semaines pour s'habituer à cette idée. Donc, on va exploiter ceci en détail dans la fois prochaine. Donc ce qui est absolument remarquable dans cette équation, c'est qu'elle contient à la fois l'équation de Schrödinger, elle contient ici, dans cette partie ici, l'équation, disons, de l'équation maîtresse ordinaire, donc c'est l'équation de Schrödinger, mais il y a une partie supplémentaire, une partie bruyante, c'est le terme de Langevin. Donc on a, en fait, ici c'est une équation de type Langevin à trois dimensions, hein. Mais ce qui est absolument remarquable dans cette équation, c'est que c'est une équation de Langevin non linéaire. Le bruit dépend de manière non linéaire sur la position. Et ce qui est absolument formidable là-dessus, c'est que cette équation parfaitement continue, stochastique, équivalente à une équation de Langevin, résume, elle, en deux branches, deux postulats de la mécanique quantique qui sont d'habitude complètement séparés. L'équation de Schrödinger, qui est une équation, linéaire dans la fonction d'onde, et le postulat de projection, qui est une évolution non unitaire, parfaitement non linéaire. Tout est rassemblé ici dans une équation unique. Et en fait, on peut mettre cette équation sous une forme un peu plus parlante. Si on regarde l'évolution de ce vecteur de Bloch, lorsque donc l'efficacité de la mesure est 1, eh bien, cette équation pour l'incrément du vecteur de Bloch en fait obéit à cette forme extrêmement séduisante, dont on peut vérifier d'ailleurs qu'elle conserve, par une simple différenciation de la longueur de ce vecteur, on peut vérifier que cette équation conserve la longueur, donc il est facile de se convaincre sous cette forme qu'on va rester sur la sphère, mais on voit apparaître quelque chose de absolument extraordinaire. On voit apparaître une espèce de système fluctuation-dissipation. C'est-à-dire que la partie relaxation de la matrice densité, hein, la partie ici qui correspond au déphasage, la perte de cohérence, en fait, a une contrepartie dans le bruit qui est telle que, justement, cette partie ici vous fait rentrer à l'intérieur de la sphère de Bloch. Cette partie ici, c'est une partie relaxation qui tend à vous faire rentrer à l'intérieur de la sphère de Bloch, mais la partie fluctuante, elle, a un aspect exactement contraire. C'est elle vous ramène, c'est un vecteur supplémentaire qui compense exactement la perte de cohérence. Et vous voyez que, finalement, il n'y a qu'un seul paramètre dans cette équation. Je m'empresse de préciser que ceci n'est vrai, bien sûr, que lorsque l'efficacité de la mesure est unité, hein, mais il n'y a qu'un seul paramètre qui va contrôler à la fois la dissipation, donc ce paramètre gamma n nous donne le taux de décohérence, mais il nous donne aussi la force des fluctuations. Hein, c'est vraiment... Donc, en quelque sorte, du point de vue du qubit, les choses se passent assez simplement. Le port froid de l'amplificateur, donc ce port à l'entrée qui nous permet d'adapter les impédances, c'est lui qui fait ce bruit, c'est lui qui va être responsable de ces petites fluctuations d'angle, et c'est lui qui finalement aussi est responsable du déphasage. Donc le caractère aléatoire de la mesure, on peut dire, est tout à fait produit par l'amplificateur lui-même. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci de votre patience parce que j'ai très largement dépassé le temps de parole.